BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos chroniques, nos chiffres, nos études. N'oubliez pas non plus tous nos comptes sur les réseaux sociaux, la librairie de l'écho, pour retrouver notamment les références précises des livres qu'on présente dans l'émission. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. Et aujourd'hui, dans la librairie de l'écho, nous arpentons une nouvelle fois les sentiers. Alors, sentier toujours renouvelé, on ne finit pas d'en découvrir de nouveau. Les sentiers d'une transition écologique soutenable. Existe-t-il un chemin pour réussir une transition écologique socialement acceptable, pas ennuyeuse et financièrement soutenable? Au prix de quels efforts, avec quelle technologie, quelle politique économique et quels loisirs? Aussi, réponse avec nos deux invités. Myriam Maestroni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de Économie d'énergie. Vous êtes aussi la fondatrice de E5T. Dites-nous les cinq...
C'est un think tank sur la transition énergétique, donc énergie, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire.
Voilà, et vous êtes aussi la fondatrice de l'entreprise Disco. Vous présidez le programme 100 leaders pour la planète et vous publiez avec Raphaël Borouman, Économie et climat, le faux dilemme. Voilà, la fin du monde ou la fin du mois, nous avons apparemment la solution. C'est chez Deux Box Supérieurs. Et puis Laurent Castagnette, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Pas la première fois qu'on vous reçoit, Laurent, dans la librairie de l'écho. Vous êtes le fondateur du bureau d'études BCO2 basé à Bordeaux. Ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Jean-Marc Daniel. Et vous publiez Le revers de la médaille aux éditions Éco-Société. Angle mort sur l'empreinte environnementale du sport. C'est votre point de départ et c'est absolument passionnant. On commence avec vous, Myriam Maestroni. Alors, on va pas refaire le constat sur les dégâts de l'économie productiviste. Grosso modo, vous nous dites, et c'est ça votre promesse, que grosso modo, entre la décroissance dure, douloureuse, pénible, triste, et l'économie productiviste carbonée qu'on connaît aujourd'hui, il y a bien un chemin pour réussir cette transition.
Oui, je crois qu'il faut arrêter, et c'est pour la raison pour laquelle on a écrit ce livre, d'opposer économie et climat, croissance et planète, pour essayer de réconcilier et de cesser un petit peu les partis pris des uns et des autres qui s'opposent systématiquement. Donc, quand on a plus besoin que jamais d'unir nos forces et de trouver une voie du milieu qui, finalement, nous permettrait d'avancer plutôt que de s'opposer les uns aux autres.
Alors, vous partez quand même d'un certain nombre de constats intéressants et notamment sur, finalement, l'utilité, le gain que nous rapporte aujourd'hui la surconsommation. Et vous utilisez cette notion dans le livre qui est la courbe champagne, la champagne curve. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette courbe, parce qu'elle est quand même très importante dans votre raisonnement.
Oui, c'est vrai. En fait, le bilan sur l'économie productiviste est assez paradoxal. On va pas cracher dans la soupe, c'est quand même grâce à l'économie productiviste qu'on est aujourd'hui où on en est de l'économie. On a eu l'accès à la médecine, à la santé,
tous les progrès, etc., niveau de vie, etc.
Mais je crois qu'on arrive à un moment où on est un peu à bout de souffle, on est dans une phase de déclin. Et donc, comment réussir à reprendre un peu d'envol et de souffle avec une économie plus sobre, où on sort de cette équation extraire, produire, consommer, jeter, et peut-être avoir une façon d'apprécier ce que l'on va consommer. Cette champagne curve, en fait, elle est basée sur l'idée de la théorie marginale. Quand je suis dans le désert et que je bois un verre d'eau, il a un prix très élevé. À mon dixième verre d'eau, le prix n'est pas le même. Donc, est-ce que finalement, on est plus heureux parce qu'on va consommer plus, ou est-ce que, et c'est un élément clé, vous avez raison, une tonne de carbone qui paraît la solution idéale pour pricer cette externalité qu'est le CO2. Et le même quand on va construire un hôpital en Afrique ou quand on va consulter ChatGPT pour savoir quels seront les menus de la semaine. Donc, il y a un peu ces réflexions pour ramener de la raison. Certains l'appellent l'économie frugale, d'autres vont l'appeler la sobriété, l'économie plus sobre. On peut l'appeler l'économie du discernement. Je crois qu'il nous appartient à chacun, et ça va demander beaucoup de leadership, qui est une dimension extrêmement importante pour moi, d'avoir cette capacité à choisir entre des choses, pourquoi nous consommons ce que nous consommons et comment nous consommons. Et je crois que ça va apporter de la valeur par rapport à beaucoup consommer et consommer toujours plus et sans véritablement s'attacher à la qualité de ce que l'on consomme.
Mais quand on voit ce qui est censé coûter la transition écologique, sans générer dans un premier temps, si je me réfère aux travaux académiques, des gains de productivité considérables, on se dit finalement entre ce qui est nécessaire sur le plan écologique et ce qui est acceptable par la société, par les consommateurs, par les entreprises, il y a quand même un énorme gap aujourd'hui. Je voudrais savoir comment vous le comblez. Est-ce que vous le comblez par exemple par la technologie? Est-ce que vous le comblez de manière un peu forcée via la fiscalité? Comment est-ce qu'on peut infléchir aujourd'hui les comportements des consommateurs et des entreprises?
Je vais prendre un exemple que je connais bien sur la rénovation des logements. Je crois que tout le monde a compris que vivre dans un logement, on va dire un G pour donner une lettre, qui est 6 à 10 fois plus,
6
à
9
fois, passoire thermique, 6 à 9 fois plus consommateur d'énergie qu'un logement qui serait construit en A, ben ça coûte plus cher que d'investir pour rendre ce logement un peu plus sobre. Et finalement, on passe d'une économie où on va avoir des dépenses, des coûts, vers une économie où on va investir. Mais cet investissement, il va créer des emplois locaux non délocalisables et il va finalement contribuer à rebooster l'économie. Encore faut-il qu'on prenne en compte l'ensemble de l'écosystème, que la fiscalité soit bien orientée, que effectivement les gens voient réellement, et c'est le cas aujourd'hui, que leurs logements vont coûter moins cher s'ils sont en G parce que personne n'est prêt à payer pour une passoire thermique le même prix que pour une maison qui serait faite neuve avec les nouvelles normes. Et puis, au final, cette idée de coût versus investissement est une clé dans cette économie-là. C'est la même chose pour le pétrole ou le gaz que l'on va importer, a fortiori aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel où les prix ont augmenté considérablement. Et le fait d'investir dans des infrastructures pour produire de l'énergie, du biogaz, du biométhane, ou pour produire de l'électricité avec toutes les sources d'énergie renouvelable dont nous disposons aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une baguette magique en matière de financement? Comment on fait? Parce qu'on voit bien l'intérêt à long terme et les gains à long terme. La question, c'est toujours fin du monde, fin du mois.
Déjà, c'est plus facile de... Ça peut être une évidence ce que je vais dire, mais en fait, c'est plus facile de financer des investissements que des coûts, parce que c'est quand même beaucoup plus logique de mobiliser de l'argent qui va servir à investir dans des infrastructures. Et aujourd'hui, c'est bien ce dont on parle. Quand on voit le bilan, la balance commerciale de la France qui est déficitaire de façon chronique depuis 2004, à un certain moment, parce que nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz ou peu de charbon, ça n'a pas de logique non plus de continuer à importer du gaz de schiste américain qui est interdit chez nous, qui est trois fois plus carboné, trois fois plus cher. Donc, à un certain moment, on va être dans l'obligation d'investir pour des structures de production électrique.
D'accord, Myriam Maestroni, mais comment vous faites pour convaincre les ménages, par exemple, d'investir? Vous parlez beaucoup dans votre livre, et c'est un concept intéressant d'ailleurs, de l'économie du discernement.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est donner envie, rendre désirable. Il faut qu'on voit un bénéfice, même s'il n'est pas immédiat. Quand on va réparer une maison, parce que ça parle au ménage, bah, évidemment, il va falloir sortir de l'argent, il va falloir faire appel à la banque ou aux aides, aux subventions, il va falloir payer du reste à charge. Mais en même temps, on a une valeur verte et cette maison, qu'on la transmette à ses enfants ou qu'on doive la vendre ou la louer, va avoir une autre valeur. Donc, on va différer cette valeur, c'est un des grands dilemmes que l'on a aujourd'hui, le fait de devoir payer tout de suite ou investir de l'argent avec des effets qui se situent un peu plus tard dans le temps. Donc je crois qu'il faut redonner envie, je crois qu'on a eu beaucoup d'injonctions sur les consommateurs, sur les Français et en général sur les Européens. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une force vive capable de réagir. Quand on a eu la crise en Ukraine et qu'on a demandé à tous les Français de faire des efforts, à tous les Européens, on a fait moins 15% d'économie d'énergie. L'économie d'énergie, c'est fantastique. Hein, c'est l'énergie qui émet le moins, qui est la moins chère.
Mais ça, c'est la magie des prix.
Oui,
c'est,
oui
c'est
non.
Parce qu'il y a eu un effet prix.
Mais il n'y a pas eu que l'effet prix. Parce que regardez, là, avec, on n'est pas dans l'OTAN et Gilets jaunes, on a un recul sur les consommations, mais ce n'est pas que ça. C'est que les gens ont envie de se sentir utiles, ont envie de faire des efforts. Je crois qu'on est beaucoup dans une économie d'offres, et à un certain moment, il faut aussi s'interroger sur la demande. Et de quoi les gens ont envie, et comment on va leur expliquer de façon pédagogique qu'ils ont un rôle à jouer.
Alors justement, un des points sur lesquels votre livre se distingue aussi, c'est vraiment l'accent que vous mettez sur la complémentarité entre les échelons de décision locaux, nationaux et supranationaux.
Oui, parce que les territoires, en fait, dans cette transition, on va avoir de l'énergie produite de façon centralisée, mais on va aussi avoir des énergies décentralisées. On va pas. Moi, je viens des Pyrénées, où on est le berceau en France des énergies renouvelables du solaire. Le four solaire d'Odeio, de Témis. Ben, on a historiquement cette culture pour pouvoir faire de l'énergie des vagues à La Rochelle, de l'énergie photovoltaïque dans les Pyrénées ou ailleurs, de l'éolien onshore ou offshore. On a en France un territoire marin qui est parmi les plus grands au monde. Et donc finalement, on va avancer avec cette idée de décentraliser. Et là, il faut repartir sur la maille locale. Mais la maille locale a besoin, évidemment, d'être articulée avec des politiques nationales. Aujourd'hui, en France, pour faire une installation en photovoltaïque, c'est entre 11 à 15 ans. Sauf à y associer les citoyens, où on peut réduire le temps administratif. C'est juste énorme. Et on a évidemment les directives européennes, et il faut articuler tout ça. Donc on a la loi d'un côté, et puis les enchaînements politiques et les articulations avec les consommateurs qui restent un peu les grands exclus, qui finalement étaient juste bons à payer des factures, et qu'on doit rendre plus actifs, et qui le feront.
Le prix mondial du carbone, c'est une bonne idée ou...
A priori, comme ça, c'est une bonne idée, mais dans la pratique, non. On aimerait tous avoir des solutions faciles, ouais. Miracles, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. La tonne de carbone a une valeur pondérée en fonction de l'usage, de la consommation qui va provoquer l'émission de cette tonne de carbone. Donc on aimerait bien trouver des solutions miracles, mais il va falloir un peu plus aller dans la complexité.
Mais je ne suis pas capable de vous dire, en fait, s'il est trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il est trop tard? C'est-à-dire, est-ce que quoi qu'on fasse, c'est foutu sur le plan de la transition écologique? Ou est-ce qu'il est trop tôt, au sens où, en gros, ça n'a pas encore été assez mal pour qu'on prenne conscience qu'il est vraiment urgent de changer les comportements?
Mais en fait, je pense que c'est... Vous avez raison, pour le climat, c'est ou trop tôt ou trop tard, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce problème avec le climat vient s'articuler avec un problème géopolitique qui, finalement, met notre Europe, qui a été la première à dire en 2019, nous serons carbone neutre, entre le marteau des pétrodollars américains et des électro-yuans chinois. Donc, il faut peut-être qu'on trouve un espace là-dedans, sinon on va prendre des coups partout. Et dans ce cas, quand on dit est-ce qu'on a besoin de souveraineté, de compétitivité pour relancer l'économie, et en plus, il y a le climat qui devient la cerise sur le gâteau, on s'aperçoit qu'il y a une conjonction favorable pour peut-être pousser les gens à agir.
Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont des modèles? Qui ont choisi, qui ont emprunté les bons chemins,
bien
plutôt
sûr.
Que les chemins des injonctions un peu bêtes.
Si on regarde les pays du Nord aujourd'hui, comme la Suède par exemple, la Suède est capable de proposer une offre en acier vert parce qu'elle a un accès à des énergies renouvelables très peu chères. La Chine vient de lancer un plan au-delà de son plan d'éco-civilisation. C'est quand même remarquable ce qu'a fait la Chine, on est d'accord ou pas. Mais en 2014, elle était accusée dans tous les journaux d'avoir les pires teneurs en CO2 et en polluants de l'atmosphérique. En 2018, ils lançaient l'éco-civilisation. 2025, ils sont devenus leaders dans tous les secteurs.
Ouais.
Donc il y a une vision, il y a un narratif, il y a un récit de société qu'on doit changer. On ne peut pas continuer à voir ceux qui ont raison, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. On est obligé d'aller vers des choses un peu plus raisonnables, à un moment où on en a vraiment besoin, comme je le disais.
Alors, Laurent Castagnède, un secteur qui échappe étrangement à toutes les critiques qui n'est pas vraiment dans le collimateur des écologistes, etc., c'est le secteur du sport. Alors, quand on regarde ce que pèse ce secteur du sport en lisant votre livre, c'est véritablement vertigineux. Juste première question, est-ce que comme ça, on peut dire que... Est-ce que le sport est l'ami ou l'ennemi de l'environnement?
Le sport dans son ensemble, on peut dire que oui, dans son ensemble, mais ça ne signifie pas que à la fois tous les sports, toutes les pratiques, tous les gens qui les pratiquent, de l'amateur du dimanche jusqu'au professionnel hyper médiatisé, il faut pas généraliser. Mais cela dit, globalement, malheureusement, oui, parce que les émissions mondiales du sport, tout confondu, hein, ouais, amateurs, professionnels, tout sport, etc., l'ordre de grandeur, c'est 2 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire 1/30 des émissions mondiales d'aujourd'hui. Or, dans une perspective, dans une vingtaine d'années de plus ou moins neutralité, on peut imaginer qu'il va falloir diviser par 4 ou 5 les 60. Donc le sport, raisonnablement, ne peut pas être dans une économie 20% de la totalité des émissions, alors que ce n'est qu'un loisir.
Oui, sauf que, Laurent Castagnède, les émissions du sport, elles sont quand même exponentielles. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, si on refait...
Croissante, je dirais, croissante.
En tout cas, ça augmente par palier. C'est-à-dire qu'en
oui, un escalier.
En gros, vous dites, il y a des... Bon, alors, est-ce que c'est possible de remonter à l'origine du sport et à l'histoire du sport? On peut penser que...
J'ai essayé dans le premier chapitre de refaire l'histoire du sport, bon, mais vu de l'empreinte environnementale.
Vous dites quand même, alors sur le plan de l'empreinte environnementale du sport, il y a quand même des étapes importantes. La fin du 19e siècle, où là, il se passe tout un tas de choses, on invente des nouveaux sports, et puis l'après-deuxième guerre mondiale.
Oui. Oui, l'après-deuxième guerre mondiale, en fait, c'est la mise en place de la société de consommation. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le sport, en fait, il s'est développé finalement en phase avec la société de consommation. Les gros postes finalement du sport aujourd'hui, ça va être des constructions. Lorsque le béton est apparu, la facilité de construire, les coûts qui ont chuté, on a plus facilement construit des stades en veux-tu, en voilà, même pour parfois n'organiser qu'une seule compétition. Pour les déplacements, le sport au début du XXe siècle, c'était que des curieux, dixit à l'époque, les gens qui traversaient une frontière pour aller voir du sport, parce que les moyens de déplacement ne leur permettaient pas facilement d'aller assister à une compétition internationale. Alors qu'avec, à partir de la Seconde Guerre mondiale, bon, d'abord il y a eu le paquebot, mais surtout ensuite l'avion, qui a permis des trajets lointains, pas très chers, finalement, qu'on voit certains faire juste pour un match. Donc ça, et puis ensuite il y a un autre phénomène, donc tout s'est additionné, la télévision est arrivée, après la radio, etc. Donc les médias et la télévision derrière, ça a été la publicité. C'est-à-dire que le sport aujourd'hui, je parle du sport de haut niveau, il est devenu, c'est même pas une vitrine publicitaire, c'est une baie vitrée publicitaire. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, regarder peut-être une rencontre sportive d'aujourd'hui, la même il y a 20 ans et la même il y a 40 ans à la télé, mais on s'est progressivement habitué, mais aujourd'hui, c'est un festival de marques. Vous avez des fois du mal à suivre le ballon à la télé, tellement il y a des panneaux lumineux qui s'éclairent en arrière-plan. Même les joueurs de tennis, parfois, se plaignent qu'ils perdent la balle de vue à cause de ce genre d'écran. Donc, on a, et donc la possibilité du sport de haut niveau de faire de la publicité. Mais en fait, ça a été en phase avec la croissance des droits TV, du sponsoring, qui a bien senti qu'il y a de l'argent à faire en utilisant le sport.
Alors, moi, j'ai été fasciné vous avez passé par le menu, mais toutes les dimensions du sport. C'est-à-dire, en gros, entre les athlètes professionnels, les athlètes du dimanche, les spectateurs, les téléspectateurs, les matériels, les technologies, les médias. Est-ce qu'on a une idée dans cet univers du sport de ce qui pollue le plus?
Alors après, sur l'ensemble du sport, les 2 milliards de tonnes, ce qui pollue le plus, c'est les déplacements, globalement.
Ouais.
Mais ça ne signifie pas qu'à chaque fois que vous zoomez sur un sport, c'est les déplacements le premier poste. Il faut se méfier de ça. Lorsqu'on parle de la pratique sportive des amateurs, les premiers postes, c'est plutôt l'énergie, les déplacements et la suralimentation. Okay, là, le sportif s'alimente un peu plus du fait qu'il fait du sport et qu'il dépense des calories. Ça, c'est pour l'amateur. Mais quand on regarde le professionnel, lui, en fait, sa pratique, elle est très faible parce que au monde, il y a finalement très peu de professionnels par rapport aux milliards d'amateurs.
C'est un peu comme l'histoire des jets privés.
Voilà. Donc en fait, l'impact des professionnels, ce n'est pas tant leur pratique sportive qu'en fait, ce qu'ils véhiculent avec, c'est-à-dire des déplacements de spectateurs qui vont les regarder et aussi avec des publicités, c'est-à-dire des annonceurs qui vont s'accrocher au sport et à ses sportifs professionnels pour aller créer de la surconsommation auprès des spectateurs, mais surtout des téléspectateurs. Et ce qui est frappant de voir, c'est que plus on monte en niveau sportif des professionnels, c'est-à-dire quand on ne regarde plus que la crème des sportifs professionnels, c'est-à-dire les tournois du Grand Chelem en tennis, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde de foot en football, et on fait ça pour l'ensemble des sports très médiatisés, là on se rend compte que le premier poste du sport professionnel de très haut niveau n'est même plus le déplacement des spectateurs, alors que pourtant ils sont très nombreux, mais ça devient en fait le marketing.
Attendez, donc pour bien vous suivre, ce que vous dites, c'est que le principal impact écologique du sport, c'est toutes les incitations que le marketing et la publicité vont générer sur les spectateurs et les téléspectateurs.
Exactement.
En impactant leur comportement de consommation. C'est quand on voit, pour être très clair, quand on voit par exemple à longueur de stade ou sur les maillots de foot, tout un tas de pubs pour des compagnies aériennes du monde entier, ça incite à prendre l'avion.
Ça incite à acheter. Enfin, c'est bien le but de la publicité. Quand regardez par exemple Paris 2024. Bon, là il y a la Coupe du Monde de foot qui s'annonce, on peut en parler, mais rétrospectivement, on a toutes les données pour analyser Paris 2024. Paris 2024, si on ne regarde que la construction, c'est un bon poste. On n'a pas construit beaucoup, honnêtement. Ouais. Si on regarde le déplacement des spectateurs, là, ça commence à être beaucoup. Et selon les estimations officielles, c'est le premier poste. Sauf qu'en fait, Paris 2024, c'est plus de 5 milliards d'euros de sponsoring. Alors que la billetterie, par exemple, ce n'est que 1,3 milliard. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'économiquement, les très grands événements sportifs, leur première recette, ce n'est plus la billetterie. C'est le marketing, c'est-à-dire le sponsoring direct et les droits TV. Droits TV qui, en fait, sont grosso modo autant d'argent à peu près que des annonceurs vont mettre pour payer les chaînes de télévision qui ont acheté les droits. Certes, elles ont un peu d'abonnement, certaines, mais grosso modo, c'est ça. Paris 2024, c'est plus de 5 milliards d'euros de publicité, en fait. Mais c'est pas de l'argent qui est tombé du ciel sans aucune contrepartie. C'est pas des philanthropes. Toutes ces grosses marques, des compagnies aériennes, des banques, des constructeurs de gros véhicules, etc. C'est pas des philanthropes. S'ils font ça, c'est qu'ils savent qu'ils vont gagner du chiffre d'affaires. Donc, en fait, l'innovation du livre n'est pas de dire que ce poste existe. Ça fait des années qu'il y a des sportifs de haut niveau qui disent « Non, non, je ne refuse tel sponsor personnel parce que c'est pas mes valeurs, tel secteur d'activité, je choisis tel sponsor. J'aimerais bien boycotter cette compétition parce qu'elle est sponsorisée par un secteur d'activité. Prenez les joueuses de football professionnelles qui ont fait une lettre ouverte à la FIFA il y a un an parce que leur Coupe du Monde de foot était sponsorisée par Aramco. » Donc voilà, donc vous avez les sportifs qui dénoncent ça, la relation entre le sponsoring et les climats. La valeur ajoutée du livre, c'est de poser une méthodologie, je dirais, un minimum sérieuse, par secteur d'activité. Parce qu'en fait, le luxe, évidemment, une pub pour des montres de luxe, tout le monde a l'heure.
Oui, c'est pas parce que Federer fait la pub pour Rolex que ça va doper les ventes de Rolex.
Ah oui, bien sûr. Sauf que ça dope des ventes qui sont que du superflu. Ah ouais. Je veux dire, l'heure, vous l'avez facilement et puis une montre, ça coûte rien. Donc, si vous faites de la pub pour des produits de luxe, on connaît très bien les ROAS, c'est-à-dire le retour sur investissement de l'investissement publicitaire. Tout ça, les chiffres sont en ordre de grandeur connus par secteur d'activité. Donc ça, c'est que du superflu, c'est du supplément. En revanche, vous avez des secteurs d'activité qui font de la pub pour piquer des parts de marché à leurs concurrents sans forcément beaucoup de conséquences carbone comme l'assurance. Mais en revanche, les SUV, regardez, il n'y a que des pubs pour des SUV et les SUV ont un succès. On peut se poser la question de dire, si on ne faisait pas de la pub pour les SUV, les gens achèteraient peut-être que des berlines et puis les constructeurs feraient des berlines.
Est-ce que tous les grands événements sportifs sont aussi exemplaires qu'ils prétendent l'être?
Ah non, mais aucun. Alors, les très grands événements sportifs médiatisés, je peux vous dire, aucun ne l'est. Parce que dans le monde, ils sont tous à avoir signé des chartes, nous sommes verts, nous visons la neutralité carbone, etc. Sauf que les émissions officielles que vous regardez, le post-marketing pour ces très grands événements médiatisés, je parle bien de ceux-là, qui sont très médiatisés en Mondovision, ben ceux-là, en fait, ils oublient systématiquement le post-sponsoring, droit TV, etc., qui, en ordre de grandeur, a priori est le premier poste. Alors je dis a priori parce que la Coupe du Monde de foot qui s'annonce, il risque d'y avoir un poste déplacement qui va être tellement élevé que peut-être que les deux vont être au même niveau. Mais la Coupe du Monde qui s'annonce sera a priori, on verra en fin d'année, peut-être l'événement le plus carboné de l'histoire du sport.
Mais il n'y a plus en même temps toutes ces constructions de stades qui servent plus à rien. Alors vous appelez ça les éléphants blancs, vous?
Alors les éléphants blancs, c'est pas moi qui l'ai, c'est le terme, c'est-à-dire c'est notamment certains stades qui ont été construits dans une perspective de 50 ans d'usage et qui deux ans après, il y a les arbustes qui poussent sur la pelouse.
C'est où ça?
Au Brésil, il y en a plusieurs, par exemple, mais dans les Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, vous avez c'est connu, des pistes de bobsleigh qui ont servi que quelques années après, elles ont été abandonnées. À Milan Cortina, on en a détruit une de 1956 complètement pour en reconstruire une toute neuve. Oui, donc il y avait derrière un éléphant blanc. Donc le post-construction, c'est le seul qui s'est à peu près amélioré.
Ce serait quoi les grands leviers aujourd'hui pour réduire l'empreinte environnementale du sport, ce serait quoi la priorité?
Alors, du sport en général, pour le sport amateur, c'est essayer de faire en sorte que les gens ne soient pas tentés de se déplacer très loin pour aller faire leur pratique sportive, d'avoir une alimentation supplémentaire qui soit plutôt végétalisée, de faire attention à la consommation énergétique, par exemple des piscines, des patinoires, et de pas prendre des douches à rallonge. C'est ça pour le sport amateur. Par contre, pour le sport professionnel, là, le sujet, c'est le marketing. C'est-à-dire que les injonctions... Alors, c'est le marketing et le déplacement des spectateurs. Le déplacement des spectateurs, c'est la multiplication des fan zones, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des fan zones super sympas pour les spectateurs et qu'ils prennent pas l'avion pour faire des milliers de kilomètres et qu'ils se réunissent. C'est un petit peu ce qui se passe au Parc des Princes, par exemple, pour la Ligue des Champions, lorsque le PSG se déplace. On a vraiment une fan zone vraiment construite dans les tribunes.
Grandeur nature.
Voilà, grandeur nature. Donc, la multiplication des fan zones, c'est ce qui peut essayer de réduire fortement le déplacement des spectateurs. Et puis après, c'est une véritable régulation de la publicité par secteur d'activité, un petit peu comme la loi Evin a interdit les cigarettiers, par exemple. Voilà, on pourrait imaginer que certains secteurs d'activité soient interdits de publicité sur le sport.
Ça, c'est une dimension qu'on pourrait étendre finalement à l'ensemble de l'économie, Myriam Maestroni.
Oui, je pense que on a un peu plus d'investissement censé à faire. J'espère qu'il y aura moins d'éléphants blancs, mais quand même, il y a un risque parce qu'il faut absolument qu'on investisse en prenant en compte la demande, ce qui est quelque chose qu'on a un peu oublié, puisqu'à l'époque, on faisait des infrastructures et on oubliait de prendre en compte qui allait les utiliser. Donc, c'est des dimensions qu'il faut croiser parce que tous les secteurs ont à prendre les uns des autres en fonction des enseignements récupérés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une logique d'investissement, on doit, à un moment donné, s'assurer que ça va être utilisé intelligemment. C'est un peu, ça revient un peu à notre...
Mais c'est vrai que toute la dimension pédagogie, la dimension...
Et le récit, la vision.
Récit, etc. Le marketing et la pub ont un très grand rôle à jouer. Merci beaucoup à tous les deux. Je cite vos deux livres à nouveau, Raphaël Borouman et Myriam Maestroni. Économie et climat, le faux dilemme, c'est aux éditions de Boix Supérieur. Et puis Laurent Castagnède, le revers de la médaille, l'empreinte environnementale du sport, aux éditions Éco-Société. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Vous retrouverez le coup de cœur de notre rédaction, des études, des chiffres. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Grand Manitou de la critique de livres dans Alternative Économique, le magazine papier. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré de la société d'économie politique dont il est encore le président. Alors, je vous préviens, cette semaine, hein, les amis, c'est une rubrique où chacun est resté solide sur ses appuis. Hein. Alors là, chacun est vraiment dans son couloir. Puisque je vous donne les deux livres dont on va discuter. Christian Chavagneux a choisi le livre de Boris Vallot, « Nos vies ne sont pas des marchandises » au Seuil. Et Jean-Marc Daniel a choisi Bertrand Martineau, « J'ai cotisé, j'y ai droit » chez Herman. Allez, on commence avec le livre de Boris Vallot, Christian Chavagneux. « Nos vies ne sont pas des marchandises ».
Alors moi, généralement, les livres du personnel politique, je regarde pas. Hein. C'est mélange de récits égocentrés, règlement de compte, vide sidéral sur la pensée. Celui-là m'a surpris.
On parle des promesses.
Sans parler des promesses quand on arrive proche d'une élection. Là, celui-là, j'ai été plutôt agréablement surpris. On est d'accord ou pas d'accord, Jean-Marc sera évidemment pas d'accord, mais on est d'accord ou pas d'accord avec le général ou avec le particulier, mais il y a une vraie réflexion intellectuelle, j'ai trouvé, dans ce livre de la part de Boris Vallot. Il nous dit quoi, en gros? C'est un livre assez épais, assez dense. Il nous dit, en gros, l'économie de marché... Avec l'État social, on l'a plutôt régulé, mais maintenant, on est face à une société de marché. Le principe de l'accumulation privée maximale s'est instauré dans notre vie quotidienne. L'accès à l'eau, l'accès à la terre, mais aussi ce qu'il y a vraiment autour de nous, les crèches, les EHPAD, même les pompes funèbres. Avec Jean-Marc, on avait discuté d'un bouquin qui montrait que les fonds d'investissement étaient les principaux actionnaires des deux plus grosses entreprises de pompes funèbres en France. Donc voilà, toute notre vie, même notre temps intime, notre temps proche avec les réseaux sociaux, avec ces multinationales américaines, tout est pris par l'économie de marché. Et ça lui va pas. Donc c'est pour ça qu'il veut démarchandiser, hein, c'est le principe du bouquin. Et là, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, surtout pas supprimer l'économie de marché, ce serait complètement stupide. Surtout pas tout recentraliser dans les mains de l'État, parce que ça fonctionne pas. Faut arriver à trouver un entre-deux. Et là, je trouve que la proposition intellectuelle forte consiste à dire le droit de propriété privée, il est légitime, mais il n'est jamais absolu, contrairement à ce que dit le Code civil. Il doit être subordonné au bien commun. Et quand on y pense, il y a plusieurs pages autour de ce sujet, parce que c'est très débattu chez les juristes, et donc ils citent beaucoup de juristes qui vont dans ce sens. Mais si vous acceptez ce principe, la subordination au bien commun du droit de propriété privée, alors ça veut dire que vous pouvez faire de l'encadrement des loyers, alors ça veut dire que vous pouvez refuser l'artificialisation des sols, ça veut dire que vous pouvez taxer les super-profits. Et si on veut faire ça, il faut que le bien commun, il vienne pas simplement d'en haut, il faut que les citoyens, il faut que les salariés soient associés, donc référendum d'initiative citoyenne, donc contribution des salariés au conseil d'administration, la fameuse codétermination, développement du modèle coopératif d'économie sociale et solidaire qui essaie de rassembler le travail et le capital, etc. etc. Donc il décline à la fin en quelques propositions, mais c'est pas un livre programmatique d'un prochain candidat à l'élection présidentielle. C'est d'abord une réflexion intellectuelle qui s'appuie sur Karl Polanyi, sur Saint-Simon, sur Marx, sur Gortz, sur Illich. Il y a beaucoup d'auteurs cités, à juste titre. Et donc, moi, j'ai trouvé, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas, moi, je suis plutôt d'accord, hein, avec ce qu'il propose, mais qu'on soit d'accord ou pas, c'est une vraie réflexion intellectuelle venant d'un homme politique vraiment engagé. C'est quand même le patron des députés PS à l'Assemblée. J'ai trouvé que c'était une bonne surprise d'avoir ce niveau de réflexion intellectuelle de la part d'un homme politique français.
Jean-Marc Daniel, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, intéressé, offusqué, scandalisé?
J'ai du mal à savoir avec quoi on doit être d'accord et avec quoi on ne doit pas être d'accord, parce que c'est assez confus, ça part un peu dans tous les sens. Il cite beaucoup de gens, effectivement, assez abondamment Karl Polanyi, donc certains aspects d'ailleurs de Karl Polanyi, parce qu'il oublie de rappeler qu'en 1963, Karl Polanyi a fait un assez long discours à partir de ce qui se passait en Hongrie, pour expliquer que le socialisme, c'était peut-être encore pire que le libéralisme qu'il avait théorisé dans la Grande Transformation. Il cite des gens comme Pelloutier, qui est un socialiste. Mais moi, je l'éviterais à citer Louis Rebaud, qui est quelqu'un de commentant la Révolution 1848, qui disait, dans les années 1850, au moins une chose est sûre, c'est que parler du socialisme, c'est faire une oraison funèbre. Parce que c'est fini. En revanche, dit Louis Rebaud, il y aura toujours des envieux, il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Mais le socialisme ne produira plus rien sur le plan intellectuel.
Grosse erreur historique.
Et non, justement, c'est continué. C'est-à-dire que le socialisme n'a pas véritablement produit de choses très... Et effectivement, il essaie... Alors, il y a des idées à la mode. C'est-à-dire cette histoire de société de marché, économie de marché. Déjà, Jospin avait commencé à parler de ça. C'est-à-dire que, de même sur le bien commun, c'est un thème qui est revenu à la mode il n'y a pas très longtemps. Notamment avec le prix Nobel qui a été donné à Lina Ostrom. Donc, il brasse tout un tas de choses avec des mesures concrètes dont on se demande quelle serait leur traduction effective, parce qu'on ne les voit pas véritablement. Et on se pose quand même la question de savoir, mais il y a 10 ans, il était quand même secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est-à-dire que c'est véritablement un exercice de ce que j'appelle les léninistes lénifiants. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont léninistes, ils sont radicaux, ils ont des idées sur ce qu'il faut faire. Dès qu'ils sont au pouvoir, il ne se passe pas une seule mesure qui soit véritablement en conforme à ce qu'ils ont annoncé. C'est-à-dire, on commence par « je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance » et on termine avec les lois El Khomri. Et c'est un peu ce type de choses qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire, on nous annonce la société, il faut arrêter le marché, il faut lutter contre les rentes. Au tout début, il dit « le véritable problème de l'économie de marché, c'est les rentes ». Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Sauf que la bonne réponse, c'est pas le contrôle des prix, la bonne réponse, c'est pas le référendum d'initiative populaire, la bonne réponse... c'est la concurrence, c'est l'économie de marché.
Est-ce que c'est la réponse de Bertrand Martineau? Alors Bertrand Martineau, lui aussi, il a été aux responsabilités dans les cabinets, mais lui, c'était plutôt côté droite, côté Nicolas Sarkozy. J'y ai cotisé, j'y ai droit, cher Herman, Jean-Marc Daniel. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre?
Alors, c'est un livre qui est très pédagogique, qui est très facile à lire. C'est pas le seul livre sur les retraites que nous avons à critiquer. On a critiqué récemment un repère qui était remarquable sur le sujet, mais qui était un peu plus difficile d'abord, parce qu'il y avait des équations, même si c'était dans des encadrés, il y avait quand même des raisonnements d'économie assez élaborés. Là, c'est véritablement un état des lieux pour le grand public. Ouais. Et d'ailleurs, le titre, c'est J'y ai cotisé, j'y ai droit. C'est aussi une façon de dire, il surquille sur les retraites tout un tas d'idées qui sont des idées préconçues et je vais les examiner, pas forcément systématiquement.
C'était la réplique d'une vieille dame qui rencontrait Emmanuel Macron et qui, à la télé, lui dit...
Et donc, il dit, par rapport à ces idées reçues, tout n'est pas faux, mais évidemment, il y a des approximations, voire des erreurs, et donc, il examine les enjeux. Alors, on les connaît, les enjeux, il y a des problèmes de démographie, il y a des problèmes de... possibilité du système de répartition de survivre sans demander des efforts particuliers aux actifs. Il y a des problèmes d'âge de départ à la retraite. Et puis, à la fin, une fois qu'il a analysé tous ces problèmes, il dit que il va proposer un certain nombre de solutions. Donc, il l'a déjà abordé dans un livre précédent sur le travail. Il dit, il va falloir passer à la capitalisation. Ne pas se faire d'illusions sur la capitalisation. C'est-à-dire que dans la capitalisation, c'est toujours l'économie qui paie. C'est toujours une partie de la production qui est prélevée. Donc, qui rappelle cette évidence qui était mise en avant par Alfred Sauvy, c'est que la capitalisation, c'est pas la panacée, c'est une façon effectivement de dégager de l'épargne. Tout ça, il dit, pour la financer, d'ailleurs, il faut supprimer des jours fériés. L'idée qu'avait eu François Bayrou de supprimer des jours fériés, il dit pourquoi pas, mais à ce moment-là, disons que ça va servir à préparer l'avenir au travers d'un système de capitalisation. De même, il dit sur l'âge de départ à la retraite, après avoir réfléchi, après avoir analysé les travaux du corps, il dit c'est un enjeu qui est un enjeu qu'on ne peut pas écarter là non plus. Et donc il propose deux âges de départ à la retraite, enfin un système à deux taquets, un âge à 62 ans qui est l'ouverture des droits et un âge à 64 ans qui est le moment où effectivement non seulement les droits sont ouverts mais il y a la garantie et la certitude d'avoir sa retraite à taux plein et si on va au-delà d'avoir une surcote dans sa retraite. Donc il y a à la fois des mesures concrètes, tout à fait applicables, tout à fait raisonnables de mon point de vue et puis une présentation assez agréable qui fait que c'est d'un abord très extrêmement facile.
Christian.
C'est vrai, la lecture est pédagogique, enfin la lecture est simple parce que le propos est vraiment pédagogique. Mais alors, Jean-Marc nous a rappelé le livre d'Anne Lavigne, le repère sur les retraites, mais moi je voudrais que Jean-Marc se rappelle sûrement aussi du livre d'Éric Weil qu'on avait commenté tous les deux sur Retraite, le blocage français. Et moi j'avais retenu de ce livre que, oulala, les retraites c'est vraiment très 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 compliqué, dès qu'on bouge un petit truc, ça fait plein de gagnants et de perdants partout, il faut y aller tout doucement. Donc quelqu'un qui commence dans l'intro par nous dire, alors... Le problème des retraites, c'est hyper simple. Il y a les vérités, il y a les mensonges. En gros, les vérités, c'est les gens qui pensent comme moi, et les mensonges, c'est ceux qui sont contre moi. Et oulalala, ça démarre mal. Ça démarre mal. Et alors, c'est vrai qu'à la fin du premier chapitre, si vous avez entre 30 et 40 ans, vous dites, le système de retraite, c'est mort. J'aurais rien. Hein. Ouais. Le bouquin d'Éric Weil avait un long chapitre pour montrer que cette approche est complètement fausse. À la fin du deuxième chapitre, il est obligé de dire, alors, j'ai quand même un problème parce que, et la Cour des comptes et le Conseil d'orientation des retraites nous disent qu'il y a pas, il y a un déficit à l'horizon 2050-2070, mais il est quand même assez petit. Oui, mais c'est parce qu'on calcule mal, en fait. Donc, il remet sur la table des arguments qui ont été mis X fois sur la table, qui ont été contredits X fois aussi, notamment par Anne Lavigne, notamment par Eric Weil.
Retraite des fonctionnaires, etc.
Retraite des fonctionnaires. C'est juste une question de ligne où est-ce qu'on met, comme l'avait dit Pierre-Louis Bras, comme l'avait dit Eric Weil, comme l'a dit Anne Lavigne, il n'y a pas un déficit de la santé, un déficit de l'éducation, un déficit des retraites. Et se focaliser, il y a un déficit public, il y a des dépenses, il y a des retraites, et il y a des dépenses, il y a des recettes, pardon, et c'est le général qui compte. Et d'ailleurs, on ne trouve pas dans le livre l'idée que, en dépit du fait que la population française vieillit de plus en plus, dépenses de retraite sur PIB est plat, jusqu'à l'horizon 2070, nous dit le rapport du corps, pourtant les recettes vont baisser. Il y a peut-être, s'il y a un déficit et qu'on considère que le déficit est important, parce que le problème est plutôt du côté des recettes que du côté des dépenses. Il y a effectivement un chapitre sur la capitalisation, et là au moins c'est clair. Souvent les libéraux nous disent, non mais la capitalisation ça vient en plus, on ne veut pas détruire. Là, le schéma qui est proposé par Bertrand Maté est extrêmement clair. Au fur et à mesure qu'on fait monter la capitalisation, on détruit la répartition. Donc là, le principe est clair, on détruit la répartition pour mettre de la capitalisation. Il y a plein de choses comme ça dans chaque chapitre. Alors effectivement, c'est extrêmement simple, c'est pédagogique. Le problème, c'est que généralement, c'est faux.
Il y a une chose sur laquelle on sera d'accord, c'est que les deux livres qu'on avait précédemment, celui de Weil et celui de Lavigne, étaient remarquables. Et celui-là, je l'inscris dans la même lignée.
Bon, eh ben merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
Et on se penche cette semaine sur le match gestion active, gestion indicielle, avec cette étude passionnante, la gestion active, levier de performance, de souveraineté financière européenne et de protection des épargnants. C'est un livre blanc signé par des gestionnaires d'actifs avec nous en plateau. L'un d'entre eux, Bertrand Merveille, bonjour.
Bonjour.
Bertrand, vous êtes le directeur général de BDL Capital Management. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on définit comme étant, je précise bien, la véritable gestion active sur les marchés d'actions. Parce qu'il y a du bluff aussi. Hein.
Il y a du bluff et c'est une excellente question. D'ailleurs, je pense que c'est la question centrale. Le souhait du collectif de sociétés de gestion indépendantes qui a produit ce livre blanc, c'est justement d'apporter sa pierre à l'édifice pour faire une définition correcte de ce qu'est la gestion active. Souvent, on oppose gestion passive et gestion active. Nous, on dit en réalité, il y a trois types de gestion, il n'y en a pas deux. Il y a la gestion passive, les ETF, on en reparlera. Ouais. Et puis,
En gros, on prend les indices, on s'installe sur la banquette arrière.
Exactement.
Et on attend
que ça se passe.
Okay.
Et puis ensuite, il y a le reste. Et le reste, jusqu'à présent, on a un peu tendance à mélanger les choux et les carottes. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans ce qui s'appelle la gestion active, donc qui n'est pas passive, en réalité, il y a la gestion benchmarkée, qui ressemble à de la gestion passive, parce qu'il y a vraiment une faible tracking error, on est proche de l'indice, et puis il y a la véritable gestion active. Donc nous, ce qu'on prône, c'est d'essayer de bien qualifier ce qu'est la gestion active, et on a un KPI qui nous semble intéressant. Un indicateur qui nous...
Alors, expliquez ce que c'est que cet indicateur.
Cet indicateur, on l'appelle l'active share, désolé pour l'anglicisme, mais... Ça permet de voir un peu...
Attendez, comment vous écrivez ça?
Active share.
S-H-A-R-E. D'accord.
Voilà. Et en fait, ça permet de voir la composition d'un fonds par rapport à son indice. Plus l'active share est élevé, en résumé, au-delà de 70%, et plus on s'approche de 100%, plus la gestion est active. Et donc, ça permet vraiment de distinguer les choux et les carottes, et de distinguer vraiment ce qu'est de la gestion.
Alors, ce qu'on appelle, parce que tous les gérants qui défilent sur BFM Business ne jurent que par le stock picking, c'est l'idée du sur-mesure, en fait, ou...
Alors, on peut faire du stock picking, et finalement faire du stock picking qui s'approche de l'indice.
Ah oui, d'accord.
Et voilà, donc en fait, le vrai stock picking, c'est un portefeuille qui va être en général assez concentré et qui va vraiment s'éloigner de l'indice.
Mais la vraie gestion active, c'est je vais voir les boîtes, je discute avec les dirigeants... Je leur fais confiance, je regarde les bilans, la valeur de l'actif, la stratégie.
C'est en général ça, mais ça suffit pas. Il suffit pas de voir des dirigeants et de voir des entreprises pour faire de la gestion active.
Ouais.
Donc statistiquement, nous, on apporte notre pierre à l'édifice en disant, regardez l'actif share. Si vous avez un actif share compris entre 70 et 100, vous avez une vraie gestion active.
Mais parce que c'est toujours ce qu'on vous oppose, effectivement, est-ce que la performance de la vraie gestion active que vous venez de définir, est-ce qu'elle est supérieure à la gestion indicielle ou passive?
Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on qualifie bien les choses avec une bonne méthodologie, quand on distingue la vraie gestion active de ce qui n'est vraiment pas actif, on s'aperçoit effectivement que la gestion active a une capacité de surperformance. Mais c'est réservé aux vrais fonds actifs. Et il suffit pas d'être actif. On s'est aperçu de manière un peu empirique que des fonds de plus grande taille et des fonds qui étaient aussi dans un environnement concurrentiel acharné, c'est-à-dire des fonds qui étaient vendus en France, en Italie, en Allemagne, avaient aussi une capacité à mieux surperformer. Donc quand un fonds qui a une active share élevée, qui est de taille assez significative, et qui en plus est dans un environnement concurrentiel acharné, il est surperformant statistiquement. C'est ça qui est intéressant dans notre étude. Ça ne dit pas que tous les gestionnaires actifs sont surperformants, ça dit que la gestion active peut effectivement surperformer.
C'est quand même ça le problème, c'est-à-dire que quand vous êtes client, entre guillemets... vous voyez, c'est comme les garagistes ou les dentistes. Comment vous savez que vous avez affaire à un bon gestionnaire d'actifs?
Ah, bah, effectivement, c'est hétérogène, la gestion active. Parce que justement, notre métier, c'est de pas faire exactement comme tout le monde. Pour ceux qui veulent pas prendre de risques, effectivement, la gestion passive, il y a pas d'odeur, pas de saveur.
Vous dites, la gestion active, c'est un levier de souveraineté financière européenne. Pourquoi?
Ah, parce que la gestion active, elle peut participer à la vie d'une économie. En Europe, on a la chance d'avoir des entreprises formidables. On a des entreprises de marché, on a des banques, on a des marchés financiers qui fonctionnent bien historiquement. Et donc, il y a des entreprises qui se présentent sur les marchés, qui viennent se faire coter. C'est ce qu'on appelle des IPO. Il y en a d'autres qui vont faire des augmentations de capital. Seuls les gestionnaires actifs peuvent participer, en fait, à cette vie économique. La gestion passive, par nature, elle suit les indices. Donc, elle va pas du tout financer notre économie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que tout le monde doit avoir en tête, c'est que la gestion passive, elle est dans les mains des Américains. 80% de la gestion passive est gérée par des entreprises américaines. Donc, si les épargnants européens se tournent trop vers la gestion passive, on va petit à petit américaniser notre épargne, donc on ne financera pas notre économie.
Dernier point extrêmement intéressant, vous dites, il y a des risques associés à la standardisation des portefeuilles.
Ah oui, parce que quand on standardise, on fait tous un peu la même chose. Les indices, ils deviennent parfois très concentrés. C'est ce qu'on a là en ce moment. Si vous prenez le MSCI World, par exemple, qui est un indice qui est censé être représenter des actions mondiales, en réalité, il est à 70, voire 75% tourné vers les actions américaines. Et de plus en plus vers la tech. Donc en fait, vous concentrez vos risques au lieu de les diversifier. Ça peut entraîner de la procyclicité. Et dans un retournement de marché qui finira par arriver, ça peut être très violent pour l'investisseur. Et il n'y a aucune chance de se sortir d'un pic comme ça de volatilité avec un gestionnaire passif.
Merci beaucoup Bertrand Merveille pour ce plaidoyer en faveur de la gestion active. Allez, toujours plus de chiffres, toujours plus d'études, c'est maintenant dans la librairie de l'écho.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Qui profite vraiment de l'intelligence artificielle? Réponse avec cette étude du cabinet PwC. Oui, l'intelligence artificielle transforme en profondeur l'économie mondiale et ouvre de nouvelles perspectives de croissance, mais toutes les entreprises n'en tirent pas les mêmes bénéfices. Certaines ont su en faire un levier de compétitivité et de croissance. D'autres peinent encore à dépasser le stade des expérimentations pour créer un impact économique tangible. Et donc, selon l'étude AI Performance Survey de PwC, qui porte sur plus de 1200 entreprises dans 25 secteurs, eh bien 20% des organisations concentreraient à elles seules 74% des gains entre hausse des revenus et gains d'efficacité, écart qui ne s'explique plus par l'accès aux technologies largement démocratisées, mais par la capacité à les intégrer au cœur de la stratégie et des opérations de ces entreprises.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et cette semaine, c'est celui de notre éditorialiste internationale, Annalisa Cappellini. Annalisa, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous emmenez, Annalisa, aujourd'hui dans les coulisses du Vatican, et mieux que ça, dans les coulisses d'un conclave avec ce livre, bon, que vous avez adoré manifestement,
oui.
Géopolitique d'un conclave... Élire un pape quand les empires reviennent, c'est écrit par Michael Kor et c'est publié chez Bayard Récit. De quoi s'agit-il ?
Alors ça rentre effectivement dans mon top 3 de l'année, hein, directement.
Super.
Et donc effectivement, ça raconte le conclave de manière très géopolitique, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais le Vatican est un État, ouais. Et le pape est un chef d'État, mmh. Évidemment avec toutes ses singularités. Mais donc lui aussi est un acteur géopolitique, et donc l'élection du pape suit les lignes de la géopolitique mondiale, c'est ce que nous dit Michael Kor dans ce livre. Michael Kor, qui est correspondant du journal La Croix à Rome, au Vatican plutôt, et qui est arrivé fin 2024, donc quelques mois seulement avant la mort du pape François et donc avant le conclave. Donc vous imaginez ce que c'est de couvrir cet événement quand on travaille pour le journal La Croix et qu'on est arrivé il y a seulement 6 mois à Rome. Et lui nous raconte tout ce qu'il a fait, il nous raconte ces jours qui ont été si importants pour lui, donc il nous amène vraiment dans les coulisses. Et il y a un sous-titre dans ce livre, c'est « Élire un pape quand les empires reviennent ». Et Michael Kor nous explique que le retour des empires, ouais. Ça veut dire le retour des empereurs. Et donc ce nouveau pape, il doit parler avec ses nouveaux empereurs.
Et ça n'est certainement pas un hasard si le nouveau pape est un Américain, comme ça n'a pas été un hasard que Karol Wojtyla soit polonais, Jean-Paul II, quand l'Union soviétique était encore au sommet de sa forme. C'est totalement géopolitique.
Bien sûr, ce n'est jamais un hasard. Là, il devient ce nouveau pape l'anti-Trump. Beaucoup disaient que c'était impossible d'avoir un pape américain, puisque le conclave n'aurait jamais choisi un pape issu de la première puissance géopolitique mondiale, parce que ça faisait trop de concentration de pouvoir.
Encore une conséquence de l'élection de Donald Trump.
Exactement, vous voyez à quel point ça nous a bouleversés. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Et en fait, Michael Kor nous explique bien pourquoi. Parce que à chaque fois que les cardinaux élisent un pape, ils doivent trouver quelqu'un qui n'ait pas de scandale, qui ne soit pas trop divisif, qui parle plusieurs langues, dont l'italien qui reste quand même la langue de travail du Vatican, qui soit issu d'une communauté assez puissante. Donc il y a énormément de critères et Robert Prévost ressemblait beaucoup de ses qualités. Mais surtout, et c'est ce qu'il explique très bien, c'est qu'on est dans un moment américain. Donc encore aujourd'hui, la réalité c'est que tout tourne au niveau géopolitique autour des États-Unis, autour de la Maison-Blanche. Que ça soit pour ou contre, mais en tout cas, tout le monde réagit aux actions de la Maison-Blanche, et donc, dans ce cas-là, de Donald Trump. Et donc, c'est évidemment un choix en contre-tendance, celui d'élire un pape américain qui devient l'anti-Donald Trump. D'ailleurs, il raconte dans le livre que les Américains, ils ont bien tenté d'influencer le choix du pape suivant. Bah, finalement, c'est un Américain, mais c'est pas exactement celui qu'ils voulaient, puisque les Américains espéraient avoir un pape beaucoup plus conservateurs qui puissent aller dans leur sens. Donc, beaucoup plus traditionnaliste, ben là, c'est pas le cas.
Ce que dit Michael Corr aussi, Annalisa, c'est que l'élection d'un pape, elle ne se fait pas qu'au moment du conclave. C'est un long processus, en fait, et qu'en coulisses, finalement, tout un tas de forces travaillent à l'élection du prochain pape.
Oui, en fait, presque au moment où on a élu un pape, on commence à penser au suivant, parce que ça se tisse sur plusieurs années. C'est vraiment comme dans un État, comme dans une géopolitique traditionnelle. Tout se joue après, effectivement, sur ces quelques jours du conclave, pendant ces jours de sédé vacanté. Ce sont les jours où il n'y a plus de pape. Et donc, Michael Corr nous dit que c'est comme si on ouvrait le capot de la voiture, qu'on avait le moteur apparent. Et donc, pendant quelques jours, on a la chance de pouvoir regarder de près ce qui se passe à l'intérieur du Vatican, cette mécanique politique qui, d'ordinaire, ne se montre jamais. Et lui, d'ailleurs, il dit qu'il y a toujours une carte du monde partout, à tous les endroits du Vatican, et que ça reflète aussi ce grand changement dans la géopolitique du christianisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de chrétiens en Europe, il y en a beaucoup plus en revanche en Asie, en Afrique, et tout ça, ça reflète aussi les grands mouvements géopolitiques, de la géopolitique traditionnelle plus large.
Merci beaucoup Annalisa Cavallini pour cette plongée dans les coulisses du Vatican. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi un livre de François Gémen. Donc, François Gémen, c'est quelqu'un qui est connu, qui est un défenseur de l'écologie et surtout de la lutte pratique et concrète contre le réchauffement climatique. Ça s'appelle « Parler du climat sans plomber l'atmosphère ». En fait, c'est 40 fiches, parce que c'est des textes assez courts, sur les mesures qu'il faut prendre pour effectivement lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est assez à la fois concret et pas punitif. Pour une fois, il y a l'idée que bon, il faudra faire des efforts, mais que personne n'est coupable, tout le monde est coupable, tout le monde est responsable en tout cas. Et donc, avec quelques éléments de bon sens, on arrivera probablement à inverser la tendance. Donc, c'est un livre que je recommande.
Très bien. Christian Chavagneux.
Bien, quand Jean-Marc fait son écolo, j'adore.
Vous ne devriez plus être beaucoup surpris.
C'est vrai. Il n'y a plus que vous, Emmanuel, à convaincre maintenant.
La marguerite entre les dents, il l'a quasiment à chaque émission, Jean-Marc.
Ben moi, je reste dans mon choix de...
Attendez, dans une petite parenthèse quand même, vous me critiquez. N'empêche que notre auteur tout à l'heure, Myriam Maestroni, m'a quand même offert ce livre, hein, Jean-Marc, qui nous concerne, les recettes durables.
Ah,
voilà,
oui.
Comment bien manger en étant écolo. Vous voyez, je m'améliore.
C'est bien, Emmanuel. Attends, faut passer au bouquin de Gémen.
Ben, il faut commencer par l'utiliser de façon concrète.
Votre choix, Christian, votre choix.
Moi, donc, comme je le disais, je reste dans mon choix de tout à l'heure, puisqu'il y a un petit que sais-je qui vient de sortir sur le socialisme et que Jean-Marc devrait lire, puisqu'il comprendra que quand l'idée naît dans les années 1830-1840, il va beaucoup, l'idée et les politiques concrètes socialistes vont beaucoup progresser après, donc c'est une erreur historique de penser qu'il ne s'est rien passé après 1848. C'est vraiment un bouquin intéressant et montre qu'il y a à la fois une quête d'égalité sociale, mais aussi d'égalité politique. Les socialistes sont battus pour la démocratie, pour la République. Il y a un chapitre extrêmement intéressant sur les liens entre l'État et le socialisme, pour montrer qu'au début, les socialistes étaient tout à fait contre l'État. On n'oublie pas de dénoncer les errements du socialisme réel. Et le bouquin finit, là, ça fera plaisir à Jean-Marc, en disant, bon, l'idée socialiste aujourd'hui, en 2026, c'est pas tellement à l'ordre du jour.
Merci à tous les deux. Moi, j'ai choisi alors deux livres que j'ai reçus simultanément, qui sont des livres à peu près dans la même lignée et qui sont absolument incroyables. C'est deux livres publiés par les éditions du CNRS. L'un s'appelle « Vivre avec la surveillance numérique en Chine ». L'autre s'appelle « Ficher tout le monde, la bataille de l'identifiant numérique en Inde ». Et alors, ce sont des travaux de sociologues qui sont allés interroger les Chinois, les Indiens. Et franchement, tout ce qu'on y apprend est passionnant, déroutant. Est-ce que les Chinois trouvent ça oppressant ? Bah, pas toujours. Effectivement, donc c'est un mélange d'adhésion et de répulsion pour toutes ces mesures. Là encore, du côté des Indiens, pas de caricature non plus. Comment est-ce qu'on justifie cette pratique du fichage ? On s'aperçoit quand même que ça profite à peu de gens et que ça en pénalise aussi beaucoup. Quel est le véritable impact sur les libertés ? Comment c'est perçu ? Moi, j'ai trouvé ces deux expériences absolument passionnantes. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.